Que savez-vous faire, madame? On vous dit sémioticienne, vous êtes psychanalyste, on vous associe à la Chine, on vous retrouve chez Proust, on vous voit plonger dans les univers de Melanie Klein et Hannah Arendt, on vous retrouve avec Colette, on vous associe au féminisme, voilà que vous écrivez un polar avec Femme décapitée. Reprenons souffle, Julia Kristeva. En fait, il y a une sorte de mythe qui vous recouvre, la belle Bulgare qui prend le pouvoir au sein de la modernité parisienne. Et puis, il y a une œuvre, et bien c'est sur elle que nous nous pencherons, et pas sur le reste. Plus de 25 ouvrages publiés en une trentaine d'années. J'avais peur de m'emmêler les pieds avec les multiples fils, mais je pense avoir trouvé facilement quelques lignes de force. Mais chut, je ne vais point les dévoiler dès le début. Vous qui êtes auteur de polar, vous savez qu'il faut toujours laisser pour la fin les réponses. Mais je vais vous demander de nous conduire en Bulgarie pendant vos années de formation. Et commençons par... Ah, tiens, j'ai une idée. Commençons par la figure du père. Alors, comment était-il?
Je crois que vous commencez très bien, cher monsieur. C'est quelqu'un qui était très important pour moi. Je lui dois énormément. C'est un homme qui aimait chanter, qui aimait la littérature et qui nous avait introduite, ma sœur et moi, très vite dans l'étude des langues, qui nous avait inscrites dans les cours de français chez les dominicaines, ce qui fait que j'ai appris le français très jeune, à partir de la maternelle, et puis qui, tout en ayant une foi extrêmement profonde, qui était sa forme de résistance, n'a pas du tout souhaité l'imposer, puisqu'il voulait que ses filles soient libres. Et donc, j'ai gardé, je crois, un souvenir d'un père aimant et d'un père formateur qui vous laisse vivre.
Trop parfait?
Peut-être, et en tout cas dans le monde qui nous entourait, cette perfection le conduisait à une grande souffrance qu'il ne partageait pas, mais qui l'a rendu très fragile, et à tel point que j'ai vécu avec beaucoup de culpabilité sa mort. Je lui ai consacré un des livres auxquels je tiens le plus, qui est peut-être le plus près de mon fort intérieur, puisque c'est ainsi que s'appelle notre émission, qui s'appelle « Le vieil homme et les loups ». Il avait une petite maladie qui devait être soignée en principe facilement à travers une intervention chirurgicale anodine qui a eu lieu malheureusement quelques mois avant la chute du mur de Berlin, et on s'est aperçu par la suite qu'à ce moment-là on faisait des expérimentations sur les vieillards, ce qui fait qu'il est mort avec ou à cause du manque de soins. Ce qui était déjà très grave pour une fille qui ne pouvait pas assister à l'opération. Et ce qui était encore plus grave, c'est que quand je suis arrivée pour l'enterrement, je n'ai pas pu obtenir qu'il soit enterré selon le rite orthodoxe, c'est-à-dire dans une tombe. On faisait l'incinération pour les croyants, de manière à éviter les attroupements religieux, et on préservait les funérailles pour les communistes. Voilà.
En inversé, donc c'était, oui. Mais c'était un peu d'où vient dur. La culpabilité?
La culpabilité, elle est inconsciente. C'était le fait de
si
ne pas avoir
parlez,
été
c'est
là.
C'est qu'elle n'est plus très inconsciente. Oui.
Non, oui, la consciente, on s'en sépare, mais l'inconsciente, elle reste, elle vous travaille la nuit. C'est de l'avoir quittée, d'avoir, de ne pas avoir suivi sa voie, de l'avoir laissée sur place, etc., etc.
Il était content de vos succès en
oui,
France?
Oui, je pense, je oui. pense.
Il
oui,
était,
il était très fier.
Il
était
lisait.
Au courant, il me lisait, oui. Il venait souvent. Enfin, oui. Autant que je pouvais, je le faisais oui. venir.
Et vous avez poursuivi un dialogue avec lui?
Tout à fait,
oui.
tout à fait.
Sur le contenu même de vos livres,
absolument.
De votre démarche.
Absolument, il m'aidait. Oui, c'était un grand lecteur de Dostoïevski. Et très souvent, je lui demandais des renseignements. Il faisait des bibliographies qui concernaient la littérature russe ou la foi chrétienne, qui m'a toujours intéressée de loin. En tant qu'objet d'inquiétude, objet de savoir, pas comme objet d'adhésion. Mmh. Mais il était très content de me fournir des faits, des documents.
Et il n'a jamais cherché, comme il ne l'avait pas fait non plus pendant votre enfance, à vous pousser vers le domaine religieux?
Pas du tout.
Jamais,
non.
Même pas petite touche légère.
Les petites touches étaient de type comportemental. Par exemple, quand on était jeune, ils nous amenaient à l'église pour communier, mais à 6 heures du matin, pour qu'on ne voie pas, mais sans insister davantage.
La mère.
La mère, toujours recommencée. Ma mère était l'esprit scientifique, elle l'est toujours, elle est vivante, heureusement. Elle a fait des études de biologie. Je pense qu'elle ne partageait pas du tout cette ferveur de mon père, mais elle ne la disputait pas, elle ne discutait pas non plus. Et elle m'a beaucoup accompagnée dans mes études scientifiques. C'est une matheuse imbattable et je gagnais les Olympiades de mathématiques grâce à elle.
Parce que vous avez des images de mère dans vos ouvrages, Julia Kristeva, qui ne sont pas toujours positives.
Vous trouvez, oui.
Oui, je ne dis pas du tout qu'il y aurait un rapport biographique, mais...
Oui.
Parfois, il y a une idéalisation de la mère.
Oui.
Bon, il est évident que la figure de la Vierge Marie compte beaucoup dans votre démarche, notamment dans l'ouvrage que vous avez écrit avec Catherine Clément. Mais je me demandais s'il n'y avait pas, dans le rapport mère-fille, quelque chose qui... un petit grain de sable.
Non, moi j'ai... vous faites peut-être référence au livre « Possession », où je parle beaucoup de l'expérience de la maternité avec ses versants idéaux et ses versants terribles. Mais là, je crois que c'est plutôt des femmes autour de moi, de mes patientes et de moi-même que j'essaye de dévoiler le fort intérieur tel que je le perçois pour parler de quelque chose dont on parle peu maintenant. Je trouve que c'est une des carences de la culture moderne, c'est-à-dire la vocation maternelle et ses difficultés. Mais pour ce qui est de ma mère, j'en ai parlé un tout petit peu ouvertement et directement dans le catalogue que j'ai fait pour l'exposition Vision Capitale, qui est toujours sur le thème de la décapitation. Et je lui dois un peu ce thème, mais de manière indirecte, en ce sens que pour moi, dans ce thème, il n'y a pas que la violence, il y a aussi ce qui est au-delà du corps, la pensée. On perd la tête physiquement, parfois, mais l'idée de survivre au-delà du corps, au-delà de la mort, et quelque chose qui travaille l'humanité. Et pour certains, c'est une idée d'immortalité qui est une foi. Pour ma mère, l'au-delà de la mort, c'était la pensée. Et je lui dois cela. Et j'ai raconté dans le catalogue Possession, qui est édité par le musée du Louvre, une petite anecdote. Il y avait à la radio bulgare, il y avait un concours pour un dessin qui devait illustrer la question, la réponse à la question « Qu'est-ce qu'il y a de plus rapide au monde ?» Ma sœur, avec laquelle on était en compétition, disait « Mais un avion ?» Moi, je disais, mais non, c'est la fusée, c'était l'époque des fusées. Et maman a dit, mais non, c'est la pensée. Alors, j'ai dit, mais c'est très intéressant, je vais écrire ça, mais comment je vais l'illustrer? C'est impossible à illustrer. Et elle m'a suggéré le dessin, c'était un bonhomme de neige qui perd sa tête, parce qu'il commence à faire chaud, il n'a plus de tête. Mais au-delà de ce bonhomme de neige, il y a le globe terrestre. Et ça représentait que même si l'homme fond, perd la tête, il peut penser la Terre et le cosmos. Alors j'ai envoyé ça, c'était donc une idée de ma mère, et j'ai gagné le concours. Donc j'ai raconté cette histoire. Donc ma mère, voilà. C'est l'origine de la pensée.
Une idée que j'ai retrouvée, je ne sais plus dans lequel de vos livres, Julia Kristeva, que justement le mot immortalité est un peu lourd et un peu fort, mais une sorte de perpétuation qu'il y a de soi-même, c'est à travers la pensée.
C'est une perpétuation, une félicité. Oui, c'est la joie suprême, c'est ce que j'essaye de dire à travers mes trois génies féminins.
La Bulgarie des années d'après-guerre, tout n'était pas drôle.
J'ai gardé un souvenir à la fois d'une très grande restriction, une chape de plomb, une discipline féroce et une certaine misère. La persécution, le fait d'avoir peur quand on sonne, quand on entend le bruit de l'ascenseur, de bon matin, ça peut être la police, etc. Et en même temps, Peut-être en raison de cette famille très unie et qui avait des valeurs intellectuelles et spirituelles, un souci et un espoir de pouvoir survivre, que c'est possible, à travers l'effort intellectuel.
Mais vous défendez beaucoup la valeur individuelle, vous dites même que ce 21e siècle doit s'appuyer sur un développement de la personnalité de chacun. Or là, vous étiez dans un système qui n'avait absolument pas envie de la personnalité individuelle, mais qui cherchait avant tout le collectif.
Absolument.
Oui. Et vous vous êtes formé à cette idée justement de la richesse et de la dignité de la pensée personnelle contre le collectif communiste de la Bulgarie.
Absolument. Je pense que c'est... comment dire, c'est très contradictoire. D'une part, c'est un message familial à travers ce souci de la personne qui fait partie du personnalisme chrétien, quel qu'il soit, orthodoxe peut-être moins, parce que j'ai une idée sur l'orthodoxie qui n'est pas aussi prometteuse. Je trouve qu'il y a beaucoup d'impasses dans la mystique orthodoxe, mais nous en reparlerons peut-être tout à l'heure. Et en même temps, il y a quand même ce souci pour la personne humaine. Il y a aussi cet intérêt pour la littérature et les arts qui poussent vers la performance individuelle. Et de l'autre côté, le collectif, comme vous dites, le club des pionniers, les valeurs qui sont toujours de masse. Mais dans la mesure où, par l'enseignement, on nous transmettait le culte des écrivains, des artistes, on nous amenait constamment au concert, on nous poussait vers les arts, vers une réalisation individuelle. Ce message de la survie par le souci culturel et par une espèce de perfectionnement personnel, ce n'était pas du tout éteint.
Les écrivains qui vous auraient marqué pendant votre adolescence, 15, 16, 17 ans?
Mais il y avait d'une part toute la tradition française, parce que d'abord par mes parents, mais aussi par cette école française que j'avais fréquentée au moment où il y avait les dominicaines. Et puis quand elles ont été convaincues d'espionnage, je suis entrée dans les cours de l'Alliance française.
Parce qu'elles ont été chassées, donc.
Elles ont été chassées, oui. Il y a très vite, moi je suis restée chez elles 2 ans, je crois. Et après, c'est l'Alliance française qui a repris leur œuvre. C'était la culture laïque, c'était Rabelais, Victor Hugo, Balzac, Stendhal. Et puis les auteurs communistes, évidemment. Et donc, c'était quand même cette performance rhétorique qui était la base de l'enseignement. Et la grande culture russe, Dostoïevski, que j'ai cité tout à l'heure. Pour mon père, un auteur moins connu, mais plus mystique, comme Leskov, Pushkin, évidemment, Gogol, enfin, tout ça.
Le sens du mal est très présent dans votre œuvre, Julia Kristeva. Et d'ailleurs, vous vous plaignez parfois de cette époque, cet Occident qui a semblé vouloir l'évacuer. Peut-être que l'histoire fait que nous sommes en train de le retrouver d'une autre manière. Mais est-ce que ce sens du mal vous serait venu justement à travers Dostoïevski ?
Je me suis rendu compte que quand j'ai essayé de rendre compte justement de cette difficulté de vivre, et notamment du côté de la femme, qui pourtant est devenue la nouvelle déesse, surtout avec le féminisme, j'ai donné comme exergue à Possession un extrait des Démons. Et le fait que, c'est Stavrogin, je crois, qui le dit, il croit peut-être pas à Dieu, mais il croit au mal. C'est cette violence et destructivité qui peut aboutir au nihilisme. Je crois que c'est quelque chose qui, je vais dire, qui m'effrayait, et que j'essaye, à travers la psychanalyse ou à travers la réflexion, de museler, de dompter, de penser.
Oui, dompter le mal, mais vous ne niez pas son existence. Vous savez, à travers votre expérience personnelle, à travers votre expérience de psychanalyste, qu'il est là, chez chacun d'entre nous.
Disons que je ne l'appellerai peut-être pas de manière aussi transcendantale, mais je pense qu'il y a, Freud l'a dit à sa manière, une pulsion de mort qui est soit une agressivité érotique destructrice, soit même plus fondamentalement, et sans la connotation érotique, une déconnexion, une brisure du lien, du lien avec autrui, mais aussi du lien avec soi, jusqu'à cet état de perte de tout contact, de perte de tout sens et du sens de la vie, qu'est la dépression profonde. Donc tous ces phénomènes-là m'intéressent beaucoup et j'essaye de faire face à ma façon.
Votre arrivée en France, vous aviez 24 ans.
Oui.
À nous deux, Paris. Ça a plutôt réussi.
Oh, c'était beaucoup plus simple et beaucoup plus...
C'est simple, ce que je viens de dire.
À nous deux, c'est un peu ambitieux. Non, moi j'ai vécu ça dans un état un peu onirique, presque halluciné au début. Vous savez, je raconte ça dans mon roman Les Samouraïs.
Oui, Olga est un peu votre double.
Ah, c'est tout à fait mon double, c'est même trop près de moi d'une certaine manière, c'est très autobiographique. Comme vous le savez, elle arrive avec 5 dollars dans la poche, c'est tout à fait
et
ça.
Et vous aviez 5 dollars.
Et je n'avais que 5 dollars et quelqu'un devait...
Ouais.
Mon père, c'est tout ce qu'il avait pu trouver, parce que ce n'était pas facile à l'époque. Et quelqu'un devait m'attendre à l'aéroport et cette personne n'est pas venue. Donc, une brave dame qui devait être amenée à l'ambassade m'a conduite avec elle. Et je restais dans le hall de l'ambassade en attendant que cette personne qui devait venir à l'aéroport vienne peut-être en retard à l'ambassade. Et il n'est pas venu non plus. Et j'ai trouvé par hasard un écrivain... un journaliste plutôt qui habitait les États-Unis, sur le livre duquel j'avais écrit un article alors que personne ne voulait écrire un article. Moi, j'étais la jeune naïve. C'était un livre sur le dégel, la fameuse modification du communisme de l'époque qui semblait très dangereuse et le livre par conséquent très dangereux. Donc, j'avais dit du bien de ce livre. On était quand même très critiqués, le journal et moi-même, d'avoir fait ça. Et je ne connaissais pas du tout ce monsieur. Il passe par le hall de l'ambassade, me dit... « Qui êtes-vous, mademoiselle ?» Je lui dis « Ah, mais qu'est-ce que vous faites ici ?» Donc, il m'a beaucoup aidée pour me trouver une chambre chez une amie à lui. Mais à ce moment-là, donc, à côté de cela, il y avait Paris couvert de neige debout, parce que je me rendais compte que ce Paris des Lumières ne savait pas déblayer la neige. Et c'était la première déception. Donc, la ville Lumière était une ville crasseuse.
Nous étions en 65, je crois.
Fin 65, voilà, c'est la veille de Noël 65. Et puis, je trouvais les Français très mal habillés. Ça ne correspondait pas du tout aux revues de mode que nous recevions. Et en plus, très compassés, qui ne s'intéressaient pas du tout les uns aux autres, qui étaient enfermés comme des paquets cadeaux, comme ça, ces jolis paquets cadeaux qu'on a dans les grands magasins et qui ne montrent pas le fort intérieur.
On a changé ?
Alors,
ne soyez
après,
pas flatteuse, hein. Allez-y, la vraie sincérité.
Mais écoutez, peut-être pas profondément, c'est peut-être pas trop mal non plus de ne pas se montrer à autrui et de garder une espèce de discrétion, mais moi j'ai trouvé d'autres moyens peut-être de connaître les Français et de trouver d'autres visages qui ne se donnent pas à la surface.
Alors assez vite, vous avez quand même le flair de sentir où se fait ce qui allait devenir la modernité de cette... partie du XXe siècle. Et vous allez découvrir, à la fois dans les milieux de linguistes et aussi au sein de tel quel, de jeunes écrivains, de jeunes critiques qui étaient en train justement d'ouvrir des voies nouvelles.
Oui, j'ai commencé d'abord par fréquenter l'école pratique des hautes études avec les cours de Gérard Genette et de Roland Barthes.
Oui, c'était pas mal choisi.
Oui, non, j'avais beaucoup lu, il faut dire, en Bulgarie, j'ai beaucoup lu le nouveau roman Blanchot, et donc Barthes, déjà, le décret zéro de l'écriture, donc je connaissais un peu tout cela, c'est ça qui m'attirait.
C'est Barthes d'ailleurs qui va vous accompagner pour vos deux thèses.
Absolument, oui. Surtout pour la première, ensuite c'est devenu quelque chose d'un peu plus linguistique. Et c'est Barthes et Genette qui vont me faire rencontrer tel quel, c'est-à-dire Solers.
Donc voici en plein cœur de la modernité. Mais néanmoins, vous avez une culture classique que vous aviez acquise en Bulgarie. Donc ce n'est pas, comme certains, une modernité qui serait coupée de la tradition.
J'avais même plutôt une culture classique parce que la modernité, je l'avais acquise par mes propres soins et elle était plutôt mal vue comme une décadence, comme quelque chose de pas recommandable.
Alors vous allez passer de la sémiologie à la psychanalyse. Pourquoi donc ? Enfin passer sans abandonner la sémiologie, mais je veux dire que vous auriez pu avoir une carrière de type universitaire. Là, nous ne parlons pas encore de l'écrivain, mais de type universitaire. Dans le domaine de la linguistique ou de la sémiologie, et vous rajoutez la psychanalyse.
Mais écoutez, moi j'ai toujours voulu, en tout cas au début, comprendre d'abord le fonctionnement de la langue et avec elle de l'esprit. Et pour comprendre ce fonctionnement, il m'a semblé à cet âge-là que j'avais, avec les nouvelles tendances de la critique, c'est-à-dire les tendances structuralistes, il m'a semblé que la compréhension de ce fonctionnement commençait par la compréhension des logiques, des grammaires, de la stylistique, de comment s'est fait une langue. Et la sémiologie était cet apprentissage. On arrivera à Colette, mais il y a un livre très sympathique sur elle de Chalon qui s'appelle « L'éternel apprenti ». Colette, l'éternel. Mais pour moi, la sémiologie, c'était mon stage d'apprenti. Au sens où il y a des apprentis en menuiserie, en tapisserie, en maçonnerie. Donc, moi, j'étais apprentie en tant que sémioticienne pour comprendre comment c'est fait. Et puis, en comprenant, plus ou moins, avec mes moyens et mes limites, ce fonctionnement, j'ai très vite saisi que la technique, le comment c'est fait, dépend du sujet et se colore différemment selon l'expérience subjective. Et pour voir comment fait la langue avec le sujet, ça ne pouvait pas se faire en dehors de la psychanalyse. Donc j'ai essayé d'entendre le langage quand il commence et quand il s'achève. C'est-à-dire l'apprentissage du langage par l'enfant et les crises de la parole dans la psychose, par exemple.
C'est ça, vous avez essayé de trouver la jonction entre ce qui serait d'un ordre objectif, qui est le fonctionnement même de la langue, et ce qui est purement le terrain subjectif de chaque
individu, et puis les états d'émergence et de crise du langage, qui me paraissaient se refléter d'une autre façon dans les expériences littéraires.
C'est ça, parce que c'est dans la crise que, justement, le problème est le plus saillant.
Absolument. D'une part, pour tout individu, pour comprendre comment nous fonctionnons, il faut voir comment nous avons acquis la langue et puis comment nous pouvons la perdre. Donc, sans que nous soyons écrivains, ça nous concerne de près. Mais surtout, en essayant de lire les grands textes, et tout particulièrement fin 19e, 20e siècle, toute cette littérature dite ésotérique, il m'a semblé qu'on est devant ces abîmes, justement, d'émergence du sens et de perte du sens. Et que si on ne voit pas les choses comme ça, on restera dans une attitude de déni ou de refus. Qu'est-ce qu'ils font? C'est incompréhensible, c'est fou, c'est sans intérêt, etc. Ou de fascination.
C'est ça, donc c'est une curiosité très ouverte.
Il me semble, oui. D'où l'intérêt que j'ai eu pour la psychanalyse, qui me paraissait devoir être la voie pour comprendre ses fonctionnements limites.
Curiosité inlassable, Julia Kristeva, et on en a encore la preuve avec la grande entreprise qui a commencé pour vous voici quelques années, d'essayer de cerner le génie féminin, enfin un certain aspect du génie féminin, à travers trois figures. La première, Hannah Arendt, la seconde, moins connue des Français, Mélanie Klein, la troisième, très connue des Français, mais qui nous étonne à la suite des deux premières, car on aurait pu voir une intellectuelle, ou on aurait pu voir une Simone Veil comme numéro 3, et on se trouve avec Colette, que d'aucuns décrivent, ce qui n'est pas votre cas, comme quelqu'un peut-être de léger, de superficiel, en tout cas qui n'a pas la tête politique, et en tout cas pas la tête métaphysique.
Sûrement pas, en effet, oui.
Alors, nous allons voir le dessin, mais avant de voir le dessin, puisque le Colette est tout frais, il n'est même pas encore en librairie, il ne sera que dans 2-3 jours, je crois, dans quelques
dans
jours.
Dans 15 jours peut-être.
Voilà,
même,
nous allons voir, il
six,
sera le 5
ou
février.
Le 6, oui.
Le 5 février, nous allons voir donc ce personnage de Colette. Alors, vous allez quand même nous expliquer pourquoi vous l'avez choisi, elle, pour fermer cette trilogie et essayer de sentir ce que vous avez capté d'elle, que peut-être le lecteur moyen ne saisit pas toujours.
C'est très difficile d'expliquer d'emblée. J'ai mis plusieurs années à m'expliquer en écrivant ce troisième volume. Mais ce que je peux dire de plus sincère et de plus immédiat, c'est que c'est un ravissement. C'est immédiat. J'aime cette écriture. Et faire le pari d'une explication, c'est un peu risqué. Mais j'ai essayé aussi de passer par là. Mais le premier mouvement, c'est cette fascination par quelque chose qu'elle refuse d'appeler littérature. Comme vous savez, elle a souvent récusé ceux qui la prennent pour un écrivain. Elle dit même qu'elle n'aime pas écrire, elle aime surtout ne pas écrire. Et beaucoup prennent cette déclaration pour une pause. Je pense que ce n'est pas le cas, même si elle est une grande joueuse et qu'elle a pu aussi faire comme ça des gestes de provocation. Je pense qu'elle a voulu dire... par cette récusation de la littérature, que pour elle, c'est une expérience, au sens mystique du terme, et on peut dire que c'est une mystique laïque parce que c'est une femme qui se dit athée, je pense que c'est un des rares esprits résolument athée, mais qui a une spiritualité extraordinaire, qui en l'occurrence se manifeste dans une osmose moins avec l'autre qu'avec l'être. C'est-à-dire les plantes, les animaux, les êtres humains, l'amitié, l'amour, dans lequel elle fait presque une transfusion de son corps, une transsubstantiation de sa chair dans la chair du monde. Et ce n'est pas tout, parce que certains d'entre nous peuvent avoir ces mouvements ça, de communion avec l'univers. Eh bien, elle arrive à extraire de la langue française le mot juste qui désigne cette osmose. Et c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Elle mange le monde dans la langue.
Oui, un monde qui passe par son corps, d'ailleurs.
De La Fontaine, et qui passe par son corps.
Et qui passe par son corps.
Et qui passe par la langue nationale.
Oui.
Elle fait un cadeau à partir de là aux Français. Elle reconstitue une espèce de communauté nationale qui fait qu'on la célébrait comme notre Colette. Mais pour moi, ça n'a rien d'un culte national. Je le dis quelque part dans mon livre, les gens la lisent parce qu'ils sentent qu'elle est au courant. Et elle est au courant du fait que nous sommes au courant des passions, des uns avec les autres, de l'univers, de l'amour et de la haine. Il y a une espèce de savoir subtil qu'elle arrive à nommer.
Vous insistez, vous venez de le rappeler beaucoup sur sa sensualité, dans son rapport au monde. Il est évident que quand elle voit un arbre, ce n'est pas simplement une image. Elle le sent, elle le palpe, de même avec les fruits, les fleurs, la terre,
absolument,
le vent, les nuages qu'elle décrit admirablement bien. Et en même temps, la réalité du monde passe par son corps. Et les expériences érotiques multiples avec des hommes, avec des femmes, ont été fondamentales pour la formation de sa personnalité et par conséquent se retrouvent en reflet dans son œuvre.
Absolument. D'ailleurs, elle est lue souvent pour ces expériences qui ont été scandaleuses. Pour la plupart, que ce soit d'abord avec Willy qui s'est comporté comme un papa et qui l'exhibait comme la tendron, ou le tendron d'ailleurs, avec ce qu'elle appelle l'hermaphroditisme mental, elle assumait facilement les deux rôles. Ensuite, son homosexualité avec Missy. Après, cette aventure scandaleuse qui est restée longuement secrète, mais que tout le monde soupçonnait avec Bertrand de Jouvenel, qui était le fils de son deuxième mari. Etc., etc. Donc, elle n'a pas reculé devant des expériences limites. Mais je pense toujours que pour elle, ce n'était pas le but. Et qu'on l'enferme trop facilement dans ces images.
Ah, c'est nécessaire. Pas le but, mais voilà, c'est ça, ça semble une nécessité.
C'est une nécessité oui. comme
pour être en communion,
de passage.
Et puis pour être en communion avec le flux de la nature.
Absolument, oui. Pour atteindre cette innocence qui est tout à fait extraordinaire dans son écriture.
Vous insistez beaucoup justement sur son amour de l'éclosion, hein, de la naissance, l'éclosion de ce qui vient au monde, de l'aube. Et dans la sexualité, elle a pu trouver aussi une éclosion, une aube.
Elle a pu trouver cela dans la sexualité et elle a, je crois, trouvé dans quelque chose qui est au-delà de la sexualité, qui est dans la sensualité. Et aussi dans le rapport au langage, parce qu'il y a une éclosion lorsque nous passons du sens au sensible et du sensible au sens. Et je crois qu'elle est sur cette frontière. Qui est une véritable frontière alchimique.
Langage, sexe, on est en plein cœur de la démarche de Julia Kristeva.